Chapitre 2. Des nouvelles. Althea soupira brusquement, repoussa la table, ce qui fit déraper la plume de Malta sur le papier. Elle se leva, se frotta les yeux et planta la table, papier et baguette de compte.
« Il faut que je sorte !»
annonça-t-elle. Ronica Westrit venait d'entrer dans la pièce avec un panier de fleurs coupées au bras et une cruche d'eau à la main.
« Comme je te comprends !»
reconnut-elle en déposant ses fardeaux sur une petite table. Elle remplit un vase et se mit à arranger son bouquet de marguerites, de gypsophiles, de roses et de frondes de fougères. Elle regarda les fleurs en fronçant les sourcils comme si c'était leur faute.
« Faire le compte de nos dettes, ce n'est pas vraiment réjouissant. Même moi, j'ai besoin de m'en échapper au bout de quelques heures. »
Elle marqua une pause, puis reprit, pleine d'espoir.
« Il faudrait s'occuper des massifs devant la porte, si tu es d'humeur à travailler dehors. »
Althea secoua la tête avec impatience. « Non, je vais faire un tour en ville, »
ajouta-t-elle plus doucement.
« Me dégourdir les jambes, voir des amis. Je serai de retour avant le dîner. »
Puis, devant l'air renfrogné de sa mère,
« Je m'occuperai des massifs, promis. »
Ronica pinça les lèvres sans répondre. Althea était presque à la porte quand Malta demanda avec curiosité
« Tu vas encore voir la fabricante de perles ?»
Elle fit semblant de se frotter les yeux en reposant sa plume.
« Ça se pourrait, »
répondit Althea d'un ton égal. Malta perçut l'exaspération contenue dans sa voix. Ronica laissa échapper un petit bruit comme si elle hésitait à parler. Althea se tourna vers elle avec lassitude.
« Quoi ?»
Sa mère eut un léger haussement d'épaules tout en continuant d'arranger les fleurs.
« Rien. Si tu pouvais ne pas passer tant de temps avec elle au vu de tout le monde, elle n'est pas de Terrilleville, tu le sais, et d'aucuns disent qu'elle ne vaut pas mieux que les nouveaux marchands. »
« C'est mon ami, » répondit Althea, impassible.
« Le bruit court qu'elle s'est installée dans la vive nef des Luttechances. Ce pauvre navire n'a jamais été normal, et elle l'a tellement détraqué en vivant à son bord que, quand les Luttechances ont envoyé des hommes pour la chasser de leur propriété, il a eu une crise. Il a dit qu'il allait leur arracher les bras s'ils essayaient de monter à bord. Tu peux imaginer l'embarras de la marchande Luttechance. » Pendant des années, Amis a tout fait pour protéger sa famille du scandale. Aujourd'hui, voilà qu'on le réveille avec toutes les vieilles histoires sur la folie meurtrière de Parangon. C'est entièrement la faute de cette femme. Elle ne devrait pas se mêler des affaires des marchands.
« Mère, »
reprit Althea d'un ton où perçait l'impatience,
« tu ne connais pas tous les détails de l'histoire. » Si tu veux, je te raconterai ce que je sais. Mais plus tard, quand nous serons entre adultes. »
Malta comprit que la petite pointe lui était destinée. Elle se hérissa, piquée au vif.
« La marchande de perles a une drôle de réputation en ville. Or, tout le monde reconnaît qu'elle est une merveilleuse artiste. Mais on sait bien que les artistes sont bizarres. Elle vit avec une femme qui s'habille et se comporte en homme. Tu le savais ?»
Jack vient des Six-Duchés, ou d'une de ces contrées barbares. Les femmes se conduisent simplement comme ça là-bas. Grandis un peu, Malta, et cesse d'écouter les vilains petits ragots,
rétorqua brusquement Althea. Malta se redressa de toute sa taille.
D'habitude, je ne fais pas attention au commérage, jusqu'à ce que notre nom y soit mêlé. Je sais qu'il n'est pas d'usage pour une dame de discuter de ces sujets, mais il me semble que tu devrais le savoir. On dit que tu vas la voir pour la même raison, pour coucher avec elle. »
Durant le silence scandalisé qui s'ensuivit, Malta rajouta une cuillerée de miel dans sa tisane. Quand elle remua son breuvage, le tintement de la cuillère contre la tasse parut presque joyeux.
« Si tu veux dire baiser, eh bien dis-le !»
répliqua Althea en prononçant à dessein le mot cru d'une voix glacée de fureur.
Si tu as l'intention d'être grossière, autant employer les bons mots.
Althea!
S'exclama Ronica, sortant enfin de son mutisme. On ne parle pas ainsi sous notre toit.
Elle avait déjà dit la chose, je n'ai fait que mettre les points sur les i,
vociféra Althea en foudroyant Malta du regard.
Tu ne peux tout de même pas reprocher aux gens de parler, poursuivit Malta après avoir siroté sa tisane.
Puis elle ajouta d'une voix désinvolte,
après tout, tu es parti presque un an et tu es revenu habillé en homme. Tu as largement passé l'âge de te marier, mais tu ne montres aucun intérêt pour les hommes. En revanche, tu te pavanes en ville comme si tu en étais un toi-même. Les gens sont en droit de se demander si tu n'es pas bizarre.
Malta, ce que tu dis est à la fois méchant et faux,
intervint Ronica d'un ton ferme, tandis que ses pommettes se marbraient de taches rouges.
Althea n'a pas passé l'âge de se marier. Tu sais très bien que ces derniers temps, Grag Tenira lui porte une attention toute particulière.
Oh, lui!
On sait très bien que les Tenira portent une attention encore plus grande à l'influence que les Vestrites pourraient avoir sur le Conseil. Depuis qu'ils se sont engagés dans cette vaine épreuve de force au quai des taxes, ils ont essayé de rallier les autres à leur cause.
C'est loin d'être vain. C'est l'autorité de Terrilville qui est en jeu. Mais je n'attends pas que tu le comprennes.
Les Tenira contestent les taxes du gouverneur parce qu'elles sont illégales et injustes.
De toute façon, cela dépasse certainement ton entendement, et je n'ai pas envie de perdre mon temps à écouter une gamine qui parle de ce qu'elle ne connaît pas. Mère, bon après-midi.
La tête droite, le visage crispé de colère, Althea sortit en trombe. Malta entendit le bruit de ses pas décroître dans le vestibule. Elle repoussa d'un air désolé les papiers devant elle et leur bruissement rompit le silence.
« Pourquoi as-tu fait cela ?»
demanda sa grand-mère à mi-voix, sans véritable colère mais avec une curiosité neutre.
« Je n'ai rien fait !»
rétorqua Malta. Puis, avant que Ronica ait eu le temps de protester, elle demanda «
Pourquoi Althea peut-elle brusquement déclarer qu'elle en a assez de travailler et qu'elle va en ville, alors que moi...
Althea est plus âgée que toi. Elle est plus mûre. Elle est habituée à décider par elle-même. Elle a respecté le marché que nous avons conclu. Elle s'est comportée avec discrétion et respect. Elle n'a pas...
Alors, pourquoi ces rumeurs?
Je ne suis pas au courant.
Sa grand-mère ramassa le panier vide, la cruche et déposa le bouquet au centre de la table.
« J'en ai assez de toi pour le moment. Bon après-midi, Malta. »
Il n'y avait toujours pas de colère, seulement cette étrange uniformité, comme si elle jugeait inutile de poursuivre. Son visage exprimait le dégoût. Elle se détourna et s'éloigna sans ajouter un mot. Elle n'était pas encore hors de portée lorsque Malta dit tout haut
« Elle me déteste. Cette vieille me déteste. Oh, faites que papa revienne bientôt. Il va vite redresser la situation ici. »
Les pas de Ronica Vestrite ne ralentirent pas. Malta se laissa retomber sur sa chaise. Elle repoussa la tisane trop sucrée.
« Quelle tristesse depuis le départ de Reyn. Même pas moyen de provoquer une dispute entre ses proches. L'ennui la rendait folle. »
Dernièrement, elle s'était surprise à les agacer pour les pousser à bout.
L'animation suscitée par la visite de Reyn et l'importance qu'elle avait prise alors lui manquait. Les fleurs étaient fanées depuis longtemps, les friandises dévorées. Si l'on acceptait les colifichets clandestins, c'était comme s'ils n'étaient jamais venus.
À quoi bon un soupirant qui vit au loin?
Elle était retombée dans la fosse de la vie ordinaire. Chaque journée était remplie de corvées et de travail. Ronica harcelait sans répit sa petite-fille pour que celle-ci se montre à la hauteur des espérances de la famille alors qu'elle laissait Althea faire ce qui lui chantait. On en revenait toujours à la même chose. Faire ce que voulaient sa mère et sa grand-mère. Être un pantin entre leurs mains. C'était aussi ce que Reyn attendait d'elle. Elle le voyait bien, même si lui ne l'admettait pas. Il n'était pas seulement attiré par son charme et sa beauté, mais aussi par sa jeunesse. Il croyait pouvoir lui dicter ses actes et même ses pensées. Eh bien, il allait voir qu'il se trompait. Ils allaient tous voir qu'il se trompait. Elle se leva de la table où elle avait fait les comptes et se dirigea nonchalamment vers la fenêtre qui donnait sur le jardin négligé et sauvage. Althea et grand-mère y faisaient quelques rares incursions pour l'entretenir, mais il aurait fallu un vrai jardinier et au moins une dizaine d'aides pour le maintenir en état. D'ici la fin de l'été, du train où allaient les choses, il serait complètement abandonné. Mais non, bien sûr. Son père serait revenu depuis longtemps, les poches pleines. Il redresserait la situation. Il y aurait de nouveau des domestiques, de bons repas, du vin. Il allait rentrer d'un jour à l'autre maintenant. Elle serra les dents en repensant à la conversation du dîner la veille au soir. Mère avait exprimé tout haut son inquiétude devant le retard du navire. Tante Althea avait ajouté qu'on n'avait aucune nouvelle de Vivacia au port. Aucun bateau n'avait signalé l'avoir croisé. Mère avait dit que Kyle avait peut-être décidé de mener sa cargaison directement en Calcède sans passer par Terrilville. Aucun navire en provenance de là ne l'a vu non plus, avait fait remarquer Althea d'un air sombre. Je me demande s'il a jamais eu l'intention de revenir. Peut-être est-il allé directement de Jamelia vers le sud. Elle avait parlé avec prudence, feignant de ne vouloir offenser personne. Mère avait répondu à mi-voix, mais d'un air farouche. « Kyle n'aurait jamais fait ça !» Après quoi, tante Althea avait gardé le silence. Elle avait découragé toute conversation. Malta cherchait à se distraire. Peut-être allait-elle utiliser le coffre à rêve cette nuit. L'émoi suscité par le rêve interdit et partagé l'attirait. La dernière fois, ils avaient échangé un baiser. Le prochain rêve s'arrêterait-il là? Avait-elle envie d'aller plus loin? Elle frissonna. Rain lui avait dit de patienter 10 jours après son départ pour reprendre le coffre. Il serait rentré chez lui alors. Malta n'en avait rien fait. Il avait été persuadé qu'elle obéirait. Elle avait beau en avoir envie, elle ne céderait pas. Qu'il attende un peu et se demande pourquoi elle ne se servait pas de la poudre. Qu'il se rende compte qu'elle n'était pas son jouet. Sir Win, lui, avait bien compris la leçon. Elle eut un léger sourire. Dans le revers de sa manche, elle gardait le dernier billet de Sir Win, la suppliant de lui accorder un rendez-vous à l'heure et au lieu qu'elle pourrait lui fixer. Il jurait que ses intentions étaient parfaitement honorables. Il amènerait avec lui sa sœur Dilo afin de ne pas compromettre la réputation de Malta. L'idée qu'on allait la livrer à cet homme du désert des pluies le rendait fou. Il savait depuis toujours qu'elle lui était destinée. De grâce, de grâce. Si elle éprouvait le moindre sentiment à son égard, il fallait qu'ils se voient afin de discuter ensemble du moyen de prévenir cette tragédie. Elle connaissait le billet par cœur. C'était une belle calligraphie à l'encre noire sur un épais papier crémeux. Dilo le lui avait remis la veille quand elle était venue lui rendre visite. Le cachet de cire, empreint du saule des Trelles, était intact. Néanmoins, les grands yeux de Dilo et ses manières de conspiratrice avaient témoigné qu'elle était parfaitement au courant du contenu. Une fois seule, elle avait confié qu'elle n'avait jamais connu son frère si angoissé. Depuis qu'il avait vu Malta danser dans les bras de Rain, il avait perdu le sommeil et l'appétit. Il avait même renoncé au jeu. Il passait ses nuits, jusqu'au petit matin, seul au coin du feu, dans le cabinet de travail. Son père commençait à s'impatienter contre lui. Il lui reprochait sa paresse, déclarait qu'il n'avait pas déshérité l'aîné pour que le cadet devienne aussi fainéant que son frère. Dilo ne savait plus que faire. Malta ne pouvait-elle donner à Serwin une mince lueur d'espoir? Elle revit la scène. Elle avait regardé au loin. Une petite larme avait roulé sur sa joue. Elle avait répondu à Dilo que, malheureusement, elle n'y pouvait pas grand-chose. Sa grand-mère y avait veillé. Elle n'était plus à présent qu'un joli ornement brillant à vendre aux plus offrants. Elle ferait de son mieux pour retarder tout jusqu'au retour de son père. Elle était certaine qu'il préférait voir sa fille dans les bras d'un homme qu'elle affectionnait plutôt que dans ceux du plus riche. Puis, elle avait transmis à Dilo une réponse orale qu'elle n'osait confier au papier. Elle s'en remettait à la loyauté de son ami. Malta retrouverait Serwin à minuit au belvédère, près du chêne couvert de lierre, au fond de la roseraie. C'était ce soir.
Elle n'avait pas encore décidé si elle irait au rendez-vous.
Une nuit d'été passée à la Belle Étoile sous le chêne ne ferait certainement aucun mal à Serwin, ni à Dilo. Elle pouvait toujours prétexter plus tard qu'elle n'avait pu échapper à la vigilance de ses gardiennes. Et la déconvenue pouvait exacerber l'impatience de Serwin.
Le pire, c'est qu'elle a de l'esprit et qu'elle est intelligente. En la regardant, je me dis que si mon père n'était pas intervenu, s'il ne m'avait pas emmené avec lui en mer, si j'avais été forcé de rester à la maison, si j'avais été étouffé par les « ce qui est convenable pour une jeune fille », j'aurais pu me rebeller de la même façon. Je crois que ma mère et ma sœur ont tort de lui permettre de s'habiller et de se conduire en femme, mais elle n'est certes plus une enfant. Elle s'oppose à nous et ne veut pas comprendre que nous sommes une famille et que nous devons agir ensemble. Elle est si préoccupée de défendre son idée du père parfait qu'elle ne voit pas les autres problèmes. Quant à Selden, il a pratiquement disparu. Il fouine partout dans la maison et il parle à peine, sauf pour pleurnicher. Alors on lui donne des bonbons et on lui dit d'aller jouer, qu'on est occupé.
Malta est censée l'aider dans ses leçons, mais elle ne réussit qu'à le faire pleurer. Je n'aurais pas le temps de m'en occuper, même si je connaissais les besoins d'un garçon de son âge.
Althea secoua la tête, exaspérée, et laissa échapper un soupir. Elle leva les yeux de la tisane qu'elle remuait machinalement en parlant et les posa sur Grag. Ils étaient attablés à la terrasse d'une boulangerie. Là, à la vue de tous, ils n'avaient pas à craindre les commères qui auraient pu s'étonner de l'absence de chaperon. Althea avait rencontré Grag dans la rue alors qu'elle se rendait à la boutique d'Ambre. Il l'avait persuadée de boire un rafraîchissement en sa compagnie. Quand il lui avait demandé ce qui l'avait contrarié au point de sortir sans chapeau, elle lui avait raconté la scène du matin. À présent, elle se sentait un peu honteuse.
« Excuse-moi. Vous m'invitez à prendre une tisane et je ne fais que gémir sur ma nièce. Ces histoires n'ont sûrement aucun intérêt pour vous. Et je ne devrais pas parler ainsi de ma famille. Mais cette Malta, je sais qu'elle rentre dans ma chambre quand je ne suis pas là. Je sais qu'elle fouille dans mes affaires, mais... »
Althea se reprit un peu tard.
Je ne devrais pas m'énerver à cause de cette petite peste. Je comprends maintenant pourquoi ma mère et ma sœur ont accepté qu'elle soit courtisée. C'est peut-être notre seule chance de nous débarrasser d'elle.
Althea, dit Grag sur un ton de reproche avec un sourire épanoui. Ce n'est certainement pas pour cette raison.
Non. En fait, elles prennent en compte l'intérêt général. Ma mère me l'a avoué franchement. Elle s'attend que Rain renonce à sa cour quand il connaîtra davantage Malta.
Althea soupira.
Si cela ne tenait qu'à moi, je précipiterais les choses avant qu'il ouvre les yeux.
Grag leva son doigt posé sur la nappe et effleura avec audace la main d'Althea.
Non, vous ne feriez pas cela. Vous n'êtes pas mesquine.
En êtes-vous sûre ?
Demanda-t-elle pour le taquiner. Il écarquilla ses grands yeux bleus d'un air faussement inquiet.
Ah, parlons de choses plus agréables. Dites-moi où en est votre conflit. Le conseil a-t-il accepté de vous entendre ?
Le conseil de Terrilleville s'est montré un adversaire encore plus acharné que les fonctionnaires du gouverneur. Mais oui, finalement, ils ont accepté de nous entendre. Demain soir.
J'y serai, promit Althea. Je vous soutiendrai autant que je le peux. Et je ferai mon possible pour que ma mère et ma sœur assistent aussi à la réunion.
Je ne suis pas certain que cela serve à grand-chose, mais je serai content d'avoir des auditeurs.
Je ne sais pas du tout ce que Père va décider, fit-il en secouant la tête.
Jusqu'ici, il a refusé le moindre compromis.
Il ne paiera pas. Il ne s'engagera pas à payer plus tard. Et nous sommes là, avec notre cargaison, les négociants nous attendent, mais le quai des taxes ne veut pas nous lâcher. Père ne veut pas payer et il n'y a pas un seul marchand pour nous soutenir. On est touché, Althea, salement touché. Si cela continue, il se peut qu'on craque.
Il s'interrompit en secouant la tête.
Vous n'avez pas besoin de soucis supplémentaires. Vous avez assez des vôtres.
Mais vous savez, il y a tout de même de bonnes nouvelles.
Votre ami Ambre a terminé les mains d'Ophélie. Le résultat est splendide.
Ça a été difficile pour Ophélie. Elle a beau dire qu'elle ne ressent pas comme nous la douleur, j'ai l'impression d'une perte, d'une gêne, quand... »
Greg laissa la phrase en suspens. Althea n'insista pas. Elle comprenait que parler des liens qu'il entretenait avec la vive nef pouvait être trop révélateur.
La douleur sourde qu'elle éprouvait à être séparée de Vivacia fut avivée par une sensation aiguë d'isolement. Elle serra les mains au creux de ses genoux en repoussant avec détermination son angoisse. Elle ne pouvait rien faire tant que Kyle n'avait pas ramené Vivacia au port d'attache. S'il la ramenait un jour. Kefria affirmait qu'il n'abandonnerait jamais sa femme et ses enfants. Mais Althea ne voyait pas les choses du même œil. Il avait entre les mains un navire sans prix auquel il n'avait pas droit. S'il l'emmenait dans le sud, il pouvait agir comme si la vive nef lui appartenait bel et bien. Il pouvait devenir riche sans avoir à rendre de compte à quiconque.
Althea ?
Elle sursauta d'un air coupable.
« Excusez-moi. »
Greg eut un sourire compréhensif.
« À votre place, je serais tout aussi préoccupé. Je continue à demander de ces nouvelles à tous les navires qui entrent au port. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose d'autre pour le moment. Le mois prochain, quand nous repartirons pour Jamelia, je tâcherai de m'informer auprès de tous les bateaux que nous rencontrerons. »«
Merci, » lui dit-elle avec chaleur.
Puis, comme le regard de Greg se faisait trop tendre, elle changea de sujet.
Ophélie me manque. Si je n'avais pas promis à ma mère de me conduire de façon plus conformiste, je serais allé lui rendre visite. La seule fois où je me suis risqué sur le quai des taxes, les gardes du gouverneur m'ont interpellé. Par respect des convenances, je n'ai pas fait d'histoire.
Elle soupira, puis changea de ton.
Alors, Ambre a été en mesure de réparer les mains d'Ophélie ?
Greg se carra sur sa chaise. Il cligna les yeux au soleil de l'après-midi.
Elle a fait plus que réparer. Elle a dû les refaçonner pour respecter les proportions car les doigts étaient plus fins. Quand Ophélie s'est inquiétée des copeaux de bois sorciers qu'il a fallu enlever, Ambre s'est fait un devoir de les récolter et de les ranger dans une boîte qui n'a jamais quitté le gaillard d'avant. Ophélie se sentait très menacée à l'idée de les perdre. Et j'ai été surpris qu'une étrangère à Terrilleville se montre si sensible à l'angoisse de la vive nef. Et elle est même allée plus loin. Après avoir consulté Ophélie, elle a obtenu de mon père la permission de confectionner un bracelet avec les plus grands copeaux. Elle va les débiter en fins bâtonnets et en barrettes et les assembler. Aucune vive nef dans le port ne possède un tel bijou, non seulement fabriqué avec son propre bois sorcier, mais sculpté de surcroît par un artiste fameux. Ophélie est au comble du ravissement.
Althea sourit, mais c'est avec un léger scepticisme qu'elle demanda
« Votre père a permis à Ambre de travailler le bois sorcier ? Je croyais que c'était interdit. »
« Ce n'est pas la même chose, » se hâta de préciser Greg. « Cela fait partie de la réparation. Ambre ne fait que rendre à Ophélie le bois sorcier qu'elle a perdu. Ma famille en a longuement discuté avant que mon père ne donne son autorisation. »
L'honnêteté d'Ambre a grandement pesé sur notre décision. Elle n'a pas tenté de prendre le moindre fragment de bois sorcier.
Nous l'avons surveillé, vous savez, car ce bois est si rare que même le plus petit éclat a de la valeur. Elle a été honnête. Plus encore, elle a fait preuve d'une extraordinaire souplesse en accomplissant son travail à bord du navire. Même le bracelet sera sculpté à bord et non dans son atelier. Elle a dû transporter de nombreux outils et toujours déguisée en esclave prostituée.
Greg mordit dans son gâteau et mâcha pensivement. Ambre n'avait rien dit de tout cela à Althea. Celle-ci n'en était pas surprise. La fabricante de perles recelait des abîmes de secrets que son amie ne s'attendait nullement à sonder.
« C'est vraiment une personnalité, » fit observer Althea, autant pour elle-même qu'à l'intention de Greg.
« C'est ce que répète ma mère. Et voilà bien le plus curieux, je crois. » Ma mère et Ophélie ont toujours été très proches, vous savez.
Elles étaient amies avant le mariage de mes parents. Quand elle a appris qu'Ophélie avait été blessée, elle était affolée. Elle était très réticente à laisser une étrangère travailler sur les mains d'Ophélie. Et elle a été plutôt dépitée que mon père ait donné son accord sans la consulter au préalable.
Althea sourit d'un air entendu devant le sérieux imperturbable de Greg, qui minimisait le mauvais caractère légendaire de Narya Ténira. Le beau visage du jeune homme s'épanouit à son tour. L'espace d'un instant, elle entrevit le marin insouciant sous le marchand conformiste qui constituait l'autre aspect de son tempérament. Ici, à Terrilville, Grag était plus attentif à la réputation de sa famille et aux convenances. Ses habits de marin avaient laissé la place à un manteau foncé, des culottes et une chemise blanche. Elle repensa à la tenue classique de son père quand il était à Terrilville. Ainsi vêtu, il paraissait plus âgé, plus sérieux et stable. Elle ressentit un léger frémissement de curiosité en constatant qu'un sourire malicieux pouvait éclairer son visage. Le marchand était intéressant et respectable. Le marin était séduisant.
Mère a exigé d'être présente quand Ambre travaillerait sur les mains d'Ophélie. Et Ambre n'a pas soulevé d'objection, mais je crois qu'elle a été un peu froissée. Quand on se méfie de vous, ça n'a rien d'agréable. Mais en l'occurrence, elles ont bavardé des heures entières, de tout et de rien, pendant qu'Ambre travaillait.
Ophélie participait à la conversation, naturellement. Vous savez bien qu'on ne peut pas dire un mot sur le gaillard d'avant sans qu'Ophélie fasse part de son avis. Le résultat a été surprenant. Mère est devenue une farouche adversaire de l'esclavage. L'autre jour, dans la rue, elle a abordé un homme accompagné d'une petite fille tatouée au visage qui portait ses paquets.
Mère a fait tomber les paquets des mains de la gamine et a dit à l'homme qu'il devrait avoir honte d'avoir séparé une enfant si jeune de sa mère. Et elle a ramené l'enfant à la maison.
Grag prit une mine un peu déconfite.
Je ne sais pas ce que nous allons faire d'elle. Elle a tellement peur qu'elle n'ouvre pas la bouche, mais ma mère assure qu'elle n'a pas de famille à Terrilville.
Elle a été enlevée et vendue comme un veau,
conclut-il d'une voix étouffée par l'émotion. Encore une nouvelle facette de son caractère.
Et l'étranger a accepté comme ça que votre mère prenne l'enfant ?
Grag sourit de toutes ses dents avec une certaine férocité. Une étincelle s'alluma dans ses yeux.
« Pas de bonne grâce. Mais Lénel, notre cuisinier, accompagnait ma mère. Il n'est pas du genre à tolérer qu'on badine avec la maîtresse.
Le propriétaire de l'esclave est resté planté au milieu de la rue à hurler des menaces, mais ça n'est pas allé plus loin. Ceux qui ont remarqué la scène ont ricané ou ri franchement. Que va-t-il faire ? Aller se plaindre au conseil municipal qu'on a enlevé l'enfant qu'il retenait illégalement en esclavage ?
Non. Il va plus probablement apporter son soutien à ceux qui veulent faire rentrer l'esclavage dans la loi comme dans les faits.
Ma mère a prévenu que, quand nous viendrons devant le conseil déposer plainte contre les fonctionnaires du gouverneur, elle soulèverait aussi la question de l'esclavage. Elle a l'intention d'exiger le renforcement des lois qui l'interdisent.
Comment ?
Demanda Althea avec amertume.
Grag la regarda simplement et répondit d'une voix basse.
Je n'en sais rien, mais il faut au moins essayer. Nous avons fermé les yeux sur ce problème. Selon Ambre, si les esclaves croyaient vraiment que nous nous battrons pour leur affranchissement, ils n'auraient pas peur d'admettre qu'ils sont esclaves. Leurs maîtres les ont menacés, s'ils se rebellaient et réclamaient la liberté, de les torturer à mort sans que personne intervienne.
Althea sentit un froid terrible l'envahir. Elle songea à l'enfant que Narya avait emmené. Craignait-elle toujours la torture et la mort ? Grandir sous pareille menace, que pouvait-il en résulter ?
Ambre pense que si on les soutient sérieusement, ils se soulèveront et se libéreront. Ils sont beaucoup plus nombreux que leurs maîtres. Elle croit aussi que si Terrilville n'agit pas bientôt pour leur rendre la liberté, il y aura une rébellion sanglante qui ruinera la ville entière.
Bon, soit nous les aidons à recouvrer la liberté, soit nous partons tous en fumée s'ils décident d'agir par eux-mêmes.
C'est à peu près ça.
Grag leva sa chope de bière et but pensivement. Au bout d'un long moment, Althea lâcha un soupir. Elle avala une gorgée de tisane et regarda au loin.
Althea, ne prenez pas cet air abattu. Nous faisons tout notre possible.
Demain soir, nous allons devant le conseil. Peut-être pourrons-nous leur faire entendre raison à la fois sur les taxes du gouverneur et sur l'esclavage à Terrilville.
Cela se peut,
convint-elle sur un ton morose. Elle ne lui dit pas qu'elle n'avait pas pensé à l'esclavage ni aux taxes.
Elle regardait le beau jeune homme au grand cœur en face d'elle, et elle attendait. Elle attendait en vain. Elle n'éprouvait pour lui qu'une amitié affectueuse. Elle avait soupiré, en se demandant pourquoi un homme aussi convenable et respectable que Grag Tenira ne pouvait émouvoir son cœur et ses sens comme l'avait fait Brachan Trell.
Il faillit faire le tour par la porte de service, mais, retenu par un reste d'ancienne fierté, il se dirigea à grands pas vers la porte d'entrée et sonna. Il ne voulut pas s'inspecter. Il n'était pas dépenaillé, il n'était pas sale. Sa chemise de soie jaune était de la meilleure qualité, ainsi que le foulard à son cou. Les culottes bleu marine et la veste courte qu'il portait avaient connu quelques ravaudages, mais tirer l'aiguille ne faisait jamais honte à un bon marin. Et si l'étoffe et la coupe de ses vêtements convenaient davantage à un pirate des îles qu'au fils d'un marchand de Terrilleville, eh bien, c'était que Brachan Trell était davantage l'un que l'autre ces derniers temps. Il avait une petite brûlure de sindine à la commissure des lèvres, car il s'était endormi en chiquant, mais sa moustache en dissimulait une bonne partie. Un léger sourire passa sur son visage. Si Althea s'approchait d'assez près pour la remarquer, elle n'en penserait certainement rien. Son ouïe fine perçut le pas d'une servante dans le corridor. Il ôta son chapeau. Une jeune femme, bien accastillée, ouvrit la porte. Elle le toisa des pieds à la tête, désapprouvant manifestement sa tenue un peu cavalière. Elle répondit à son sourire jovial par un regard outré. « Vous désirez ?» demanda-t-elle avec hauteur. Il lui fit un clin d'œil. « J'aurais apprécié un accueil plus courtois, mais je doute de l'obtenir. Je viens voir Althea Vestrit. Si elle n'est pas disponible, je voudrais parler à Ronica Vestrit. J'ai des nouvelles urgentes. » « Vraiment ? Eh bien, je crains qu'il vous faille attendre, car elles ne sont pas là, ni l'une ni l'autre. Bonjour !»
L'inflexion de sa voix démentait clairement le bonjour. Il fit un pas en avant pour empêcher la porte de se refermer.
« Mais Althea est bien rentrée au port » insista-t-il, désireux d'entendre les mots de vive voix. « Voilà des semaines qu'elle est revenue. Ôtez-vous de là » fit-elle hargneusement.
Brachan sentit son cœur bondir de soulagement. Elle était rentrée, saine et sauve. La fille continuait de tirer la porte qu'il coinçait. C'en était assez de la courtoisie.
« Je ne m'en irai pas, je ne peux pas. J'apporte des nouvelles importantes. Je ne vais pas me laisser rembarrer par une servante qui fait sa crise. Laisse-moi entrer tout de suite, ou tes maîtresses vont être très fâchées contre toi. »
La petite bonne recula d'un pas, suffoquée.
Brachan en profita pour franchir le seuil. Il jeta un regard autour de lui en fronçant les sourcils.
L'entrée avait été la fierté du capitaine. Elle était toujours propre et claire, mais le bois et le cuivre étaient ternis, et les chaudes odeurs de cire et d'huile avaient disparu. Il aperçut même une toile d'araignée dans un coin. Il n'eut pas le temps d'en voir davantage. La bonne tapait du pied, indignée.
« Je ne suis pas une servante, espèce de bâtard, vaurien !»
Je suis Malta Havre, la fille de la maison, et je vous serai reconnaissante de débarrasser le plancher. Vous puez.
Pas tant que je n'aurai pas vu Althea. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Mettez-moi n'importe où. Je resterai tranquille et me tiendrai comme il faut.
Il scruta la jeune fille de plus près.
C'est Malta. Je vous demande pardon, je ne vous avais pas reconnue. La dernière fois que je vous ai vue, vous étiez en robe courte.
Il tâchait de se faire pardonner sa bévue et lui sourit.
« Mazette, vous avez l'air d'une dame maintenant. Vous jouez à prendre le thé avec vos amis ?»
Sa tentative pour la désarmer échoua lamentablement. Elle écarquilla les yeux et retroussa la lèvre en une moue de dédain.
« Qui êtes-vous donc, matelot, pour oser me parler si familièrement dans la maison de mon père ?»
Brachan Trell, ex-second du capitaine Vestrit. Pardon de ne pas l'avoir dit plus tôt. J'apporte des nouvelles de la vive nef Vivacia. Il faut que je voie votre tante ou votre grand-mère immédiatement, ou votre mère. Elle est à la maison ?
Non. Elles sont allées en ville pour discuter des plantations de printemps. Elles rentreront tard.
Althea est sortie s'amuser. Ça, seule sait quand elle rentrera.
N'importe. Vous pouvez me confier vos nouvelles.
Pourquoi le navire a-t-il tant de retard? Ils en ont encore pour longtemps?
Brachen se maudit. La perspective de voir Althea avait quelque peu atténué dans sa tête la gravité des nouvelles qu'il apportait. Il regarda la jeune fille qui était devant lui. Il allait révéler que le navire de la famille avait été capturé par des pirates. Il n'était pas en mesure de lui apprendre si son père était toujours en vie. Il n'allait pas lâcher cela tout à trac à une enfant seule chez elle. Il regretta amèrement qu'elle n'ait pas laissé une servante ouvrir la porte. Il regretta plus encore de n'avoir pas eu la présence d'esprit de tenir sa langue et d'attendre qu'un adulte soit présent. Il se mordit la lèvre et grimaça, car la petite plaie de Sindine l'élançait.
« Vous feriez bien, je crois, d'envoyer un garçon en ville pour demander à votre grand-mère de rentrer le plus vite possible. C'est à elle d'abord que je dois annoncer les nouvelles. »«
Pourquoi? Il est arrivé quelque chose ?»
Pour la première fois, la jeune fille parla de sa propre voix, sans singer une adulte. Bizarrement, elle en parut plus mûre. La peur soudaine qu'on percevait dans son regard et dans son ton alla droit au cœur de Brachen. Il resta quoi? Il ne voulait pas lui mentir. Il ne voulait pas non plus l'accabler de la vérité sans que sa mère ou sa tante puissent l'aider à absorber le choc. Il tritura son chapeau.
« Je crois qu'il vaut mieux attendre qu'une grande personne soit là, »
déclara-t-il avec fermeté.
« Vous pouvez envoyer quelqu'un chercher votre grand-mère ou votre tante ?»
Elle crispa les lèvres et sa peur fit place à la colère. Les yeux étincelants, elle répondit sèchement
« Je vais envoyer Rack. Restez ici !»
Elle s'éloigna d'un pas résolu et le laissa planter sur le seuil.
Pourquoi n'avait-elle pas tout simplement appelé une servante pour porter le message?
Et elle avait ouvert elle-même la porte. Il avança de quelques pas dans l'entrée jadis familière et risqua un coup d'œil dans le couloir. Il fut prompt à remarquer là aussi des signes de manque d'entretien. Il repensa à l'allée qu'il venait d'emprunter, jonchée de branches cassées et de feuilles mortes. Les marches du perron n'avaient pas été balayées. La famille Vestrit traversait-elle une période difficile ou Kyle était-il pingre? Il attendit avec nervosité. Les mauvaises nouvelles qu'il apportait pouvaient se révéler beaucoup plus graves qu'il ne l'avait imaginé. La capture du navire pouvait précipiter la ruine de la famille.
« Althea, » pensa-t-il intensément, comme s'il pouvait la faire venir par la seule force de sa volonté.
La veille du printemps mouillait au port de Terrilleville. Ils étaient arrivés le jour même. Dès que le navire avait été solidement amarré, Faini avait envoyé Brachen à terre. Le capitaine comptait sur lui pour trouver un acheteur qui lui prendrait le meilleur du butin. Mais Brachen s'était rendu directement chez les Vestrit. Le portrait de la Vivacia était à bord de la veille du printemps, preuve muette de la véracité de ses dires. Il doutait qu'elle veuille le voir, même si Althea le réclamait par la suite. Il ignorait quels étaient les sentiments de celle-ci à son égard, mais elle saurait qu'il n'était pas un menteur. Il chercha à repousser ses pensées, mais quand il s'agissait d'Althea, son esprit se montrait récalcitrant. Que pensait-elle de lui? Pourquoi accordait-il une telle importance à son opinion? Parce qu'il voulait qu'elle ait bonne opinion de lui. Ils s'étaient séparés en mauvais termes, et il n'avait cessé depuis de le regretter. Elle ne lui tenait certainement plus rigueur de sa grossière plaisanterie. Elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas de ces bégueules qui s'offusquent d'une blague maladroite. Il ferma les yeux brièvement et souhaita avoir raison. Il avait beaucoup d'estime pour elle. Il fourra les mains dans ses poches et se mit à arpenter le vestibule.
Dans la boutique d'Ambre, Althea fouillait machinalement une corbeille de breloques en bois. Elle en cueillit une au hasard et l'examina. Une pomme. Puis une autre, une poire. Une autre encore, un chat la queue enroulée. À la porte, Ambre raccompagnait un client en lui promettant que son collier serait prêt le lendemain. Alors que la porte se refermait derrière lui, elle déposa une poignée de breloques dans une petite corbeille, puis commença à remettre en place celles qui n'avaient pas été choisies. Althea vint l'aider, et elles reprirent leur conversation interrompue.
« Bon, Naria Tenira va interpeller le conseil au sujet de l'esclavage.
C'est ce que tu es venu m'apprendre ?
J'ai pensé que tu aimerais savoir à quel point elle t'a trouvé persuasive.
Ambre sourit, ravie. Je le savais déjà, évidemment.
Naria me l'avait dit.
Je l'ai choquée en lui avouant que j'aurais aimé être présente.
Les réunions sont réservées aux marchands,
protesta Althea. C'est ce qu'elle a dit, reprit Ambre aimablement. C'est ce qui t'a amené ici si vite ?
Il y a un bout de temps que je ne t'ai vu, expliqua Althea en haussant les épaules. Et je n'avais pas le cœur à rentrer à la maison pour affronter les comtes ou Malta.
Un jour, Ambre, je vais te la secouer comme un prunier, cette fille. Elle est tellement exaspérante. En fait, on dirait qu'elle te ressemble beaucoup.
Devant le regard furibond et outré d'Althea, elle se reprit.
Telle que tu aurais été si ton père ne t'avait pas emmené naviguer avec lui.
Parfois, je me demande s'il a bien fait, répliqua Althea malgré elle. Ce fut au tour d'Ambre d'être surprise.
Tu aurais voulu que ce soit autrement ?
Demanda-t-elle à mi-voix. Je n'en sais rien.
Elle se passa distraitement les mains dans les cheveux. Son amie l'observait, amusée. Tu ne joues plus au gamin, tu ferais mieux de te recoiffer.
Althea gémit et se tapota la tête. Non, maintenant je joue à la dame de Terrilville. Tout aussi faux. Là, c'est mieux comme ça ?
Ambre tendit le bras au-dessus du comptoir pour remettre une mèche en place. « Voilà, c'est beaucoup mieux. »« Faux ? Comment cela ?»
Althea se mordit la lèvre, puis secoua la tête. « Faux à tous les égards. Je me sens carapassonnée dans ces vêtements. Je dois marcher d'une certaine façon, m'asseoir d'une certaine façon. Je peux à peine lever la main car je suis bridée par mes manches. Les épingles à cheveux me donnent mal à la tête. » Je dois m'adresser aux gens selon l'étiquette. Même le fait d'être là avec toi dans ta boutique peut prêter à scandale. Mais le pire, c'est que je dois faire semblant de vouloir des choses dont je n'ai pas vraiment envie.
Elle marqua une brève pause.
Parfois, j'arrive presque à me convaincre que j'en ai vraiment envie, ajouta-t-elle d'un ton confus. Si c'était le cas, la vie serait plus simple.
La fabricante de perles ne répondit pas tout de suite. Elle ramassa les petites corbeilles et Althea la suivit dans une alcôve au fond de la boutique. Ambre laissa retomber un rideau de breloques sculptées à la main qui les protégeait des regards indiscrets. Elle s'assit sur un tabouret près d'un établi. Althea prit une chaise dont les accoudoirs portaient la marque d'entaille faite machinalement par Ambre. « Qu'est-ce que tu ne veux pas ? » demanda-t-elle gentiment en disposant les breloques devant elle sur l'établi.
« Je ne veux rien de tout ce que veut une vraie femme. » C'est toi qui m'as fait prendre conscience de cela. Je ne rêve ni de bébé, ni d'une jolie maison. Je ne veux pas m'installer, ni fonder de famille. Je ne suis même pas sûr d'avoir envie de me marier. Aujourd'hui, Malta m'a accusé d'être bizarre. Cela m'a touché plus que tout le reste. Parce que c'est vrai. Je suis bizarre, je crois. Je ne veux rien de tout ce qu'une femme est censée vouloir, poursuivit-elle en se frottant les tempes. Je devrais vouloir Greg, c'est-à-dire... Je le veux, je l'aime bien. J'aime bien sa compagnie.
Fit-elle en fixant son regard sur la porte, puis elle ajouta avec plus de franchise.
Quand il me touche la main, cela me fait quelque chose. Même quand je m'imagine l'épouser avec tout ce que cela comporte.
Elle secoua la tête.
Ce n'est pas ça que je désire. Cela me coûterait trop.
Pourtant, ce serait sage sans doute. Ambre garda le silence. Elle triait des petits morceaux de métal et des rondelles d'écartement en bois. Elle mesura plusieurs longueurs de fil de soie brillante, puis commença à les nouer ensemble pour en faire un cordon.
« Tu ne l'aimes pas, »
dit-elle.
« Je pourrais, mais je ne m'autorise pas à l'aimer. C'est comme désirer quelque chose qu'on ne peut s'offrir. Je n'ai aucune raison de ne pas l'aimer, sauf qu'il y a... tant de choses qui sont liées à lui. Sa famille, son héritage, son navire, sa position dans la société.
Elle soupira de nouveau, l'air malheureux.
Lui tout seul, il est merveilleux, mais je ne peux me résoudre à renoncer à tout pour l'aimer.
Ah ! Ambre enfila une perle et fit un nœud. Althea suivit du doigt une entaille sur l'accoudoir.
Il a des projets.
Mais que je commande ma vive nef n'en fait pas partie. Il veut que je m'installe et que je dirige les affaires à sa place, que je lui organise un foyer, que j'élève nos enfants et que je m'occupe de la maison, dit-elle en fronçant les sourcils. Que je fasse tout ce qu'il faut pour qu'il puisse naviguer sans autre souci que son bateau. Sa voix se teinta d'amertume. Que je fasse tout pour qu'il puisse vivre comme il l'entend. Et elle ajouta tristement, « Si je décide d'aimer Grag, de l'épouser, cela me coûtera tout ce que j'ai toujours voulu faire de ma vie. Je devrais tout abandonner par amour pour lui. » « Et ce n'est pas ce que tu veux faire de ta vie ?» demanda Ambre. Un sourire aigre crispa les lèvres d'Althea. « Non, je ne veux pas être le vent dans ses voiles. C'est ce que je voudrais qu'on soit pour moi. » Elle se redressa brusquement. « C'est-à-dire, ce n'est pas ça. Je ne m'explique pas très bien. » Ambre leva les yeux de son travail et lui sourit d'un air narquois. « Au contraire, tu es gênée, je crois, parce que tu t'es exprimée très clairement. Tu veux un compagnon qui partage ton rêve. Tu ne veux pas renoncer à tes ambitions au profit d'un autre. » « C'est vrai, je pense. » admit Althea de mauvaise grâce. Puis elle demanda « Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela ?»«
Rien, »
assura Ambre. Puis elle ajouta avec malice
« Si tu es un homme. »
Althea s'appuya au dossier de sa chaise et croisa les bras d'un air buté.
« Je n'y peux rien. C'est ce que je veux. »
Devant le silence de son amie, elle s'exclama presque fâchée
« Et ne me dis pas que c'est justement cela l'amour, renoncer à tout pour l'autre. »«
Pour certains, c'est cela. »
rétorqua-t-elle, impitoyable. Elle noua une autre perle au collier qu'elle souleva et examina d'un œil critique.
« Les autres sont comme deux chevaux d'un attelage qui tirent ensemble dans la même direction. »
« Cela ne doit pas être si mal, je suppose. » admit Althea en fronçant les sourcils comme si elle n'était pas entièrement convaincue.
« Pourquoi ne peut-on aimer et rester libre ? »
demanda-t-elle brusquement. Ambre se frotta les yeux puis tira pensivement sur sa boucle d'oreille.
« On peut aimer ainsi, » concéda-t-elle à regret. « Mais le prix de cet amour-là peut être très élevé. »
Elle alignait ses mots avec autant de soin que ses perles.
« Pour aimer ainsi, il faut admettre que la vie de l'autre a autant d'importance que la tienne. Plus dur encore, il faut admettre que l'autre a des besoins que tu ne peux pas satisfaire et que tu as des tâches qui te retiendront loin de lui. Le prix, c'est la solitude et la nostalgie et le doute et...
Pourquoi faut-il que l'amour ait un prix ? Pourquoi le désir doit-il être mêlé à l'amour ? Pourquoi ne peut-on être comme les papillons, nous unir en plein soleil et nous séparer quand il fait encore jour ?
Parce que nous ne sommes pas des papillons. Prétendre qu'on peut s'unir, s'aimer, puis se séparer sans souffrance, sans que cela tire à conséquence, c'est plus fou encore que jouer à la fille de marchand comme il faut.
Elle reposa le collier et croisa le regard d'Althea. Puis elle déclara sans embâge
« N'essaie pas de te convaincre, je t'en prie, que tu peux coucher avec Grag Ténira puis t'en aller, sans dommage pour l'un comme pour l'autre. Tout à l'heure, tu as parlé de l'amour sans désir. Satisfaire ton désir sans amour, c'est du vol. Si tu dois le faire, alors engage les services de quelqu'un, mais ne vole pas Grag sous prétexte que c'est gratuit. « Je connais Grag Ténira maintenant. Il ne peut pas te donner cela, pas de cette façon. »
Althea croisa les bras sur la poitrine.
« Je n'en avais pas l'intention. »«
Si, tu y pensais, »
affirma Ambre en baissant les yeux sur ses perles.
« On y pense tous. Cela ne veut pas dire que c'est bien. »
Elle retourna son travail et commença un nouveau motif de nœud. Elle rompit le silence en ajoutant
« Coucher avec quelqu'un, c'est toujours s'engager. Parfois, l'engagement consiste seulement à prétendre des deux côtés que l'acte n'a aucune importance.
Ses yeux de si étrange couleur soutinrent un instant le regard d'Althea.
« Parfois, tu es seule à t'engager. L'autre ne le sait pas ou bien il l'accepte. »
« Brachen. » Mal à l'aise, Althea remua sur sa chaise.
Pourquoi se rappelait-il toujours à elle aux moments les plus inopportuns? Dès qu'elle croyait l'avoir extirpée de sa mémoire, les feuilles de cet intermède se dépliaient à nouveau. Et sa colère renaissait, mais elle n'était plus si sûre qu'elle soit dirigée contre lui. Elle repoussa ses pensées. C'était fini et bien fini, elle avait tiré un trait sur cette partie de sa vie. Elle pouvait la laisser derrière elle, et la cacher sous tout le reste. Aimer, ce n'est pas seulement être sûr de l'autre, savoir qu'il va renoncer à tout pour toi. C'est aussi savoir avec certitude que tu es prêt à te sacrifier pour l'autre.
Comprends-moi bien. Chacun des partenaires renonce à quelque chose. Les rêves individuels sont sacrifiés à un rêve commun. Dans certains couples, un des partenaires sacrifie presque tout ce à quoi il croyait tenir. Mais il ne s'agit pas toujours de la femme. Un tel sacrifice n'est pas déshonorant. C'est l'amour. Si tu juges que l'homme en vaut la peine, ça marche.
Elle resta un moment immobile à réfléchir. Soudain, Althea se pencha en avant pour lui demander
« Tu crois que si j'épousais Grac, je changerais d'avis ?»«
Eh bien, il faudra forcément qu'un des deux change d'avis, » répondit-elle avec philosophie.
Brachen risqua un autre coup d'œil dans le couloir. Où était passée la jeune fille? Allait-elle le laisser ainsi planté jusqu'à ce que le coursier revienne avec sa mère? Il n'aimait pas attendre. Il sourit jusqu'aux oreilles. La perspective de revoir Althea lui réjouissait le cœur malgré la gravité des nouvelles dont il était le messager. Il regrettait de n'avoir pas le moindre petit morceau de sardine pour se soutenir, mais il avait laissé résolument sa provision à bord de la veille du printemps. Il savait qu'Althea désapprouvait son petit vice. Elle ne devait pas croire qu'il était intoxiqué au point d'en avoir toujours sur lui. Pour elle, le défaut était déjà suffisamment grave. Eh bien lui, il connaissait tous ses défauts à elle. La proximité l'avait forcé à les tolérer au fil du temps. Et peu lui importaient les défauts. Il en était venu à l'aimer. Et ce n'était pas pour avoir couché une fois avec elle. Cette nuit-là, il avait été obligé d'admettre ce qu'il ressentait déjà. Il l'avait vue tous les jours pendant des années. Ils avaient partagé repas et chopes dans nombre de ports, joué ensemble, réparé des voiles ensemble. Elle le traitait non comme le fils paria d'un marchand, mais comme un officier compétent. Elle le respectait pour son savoir et son aptitude au commandement. Elle était une femme, mais il pouvait parler avec elle d'autre chose que de sa robe ou de ses yeux. N'était-ce pas rare, cela? Il alla vers une fenêtre d'un pas nonchalant et jeta un coup d'œil dans l'allée. Un pas léger le fit se retourner. C'était Malta qui revenait. Un peu gâtée, s'il fallait en croire Althea. Leurs regards se croisèrent et elle sourit avec gravité. Son attitude avait de nouveau changé.
J'ai envoyé un coursier, comme vous l'avez suggéré. Si vous voulez bien me suivre, je peux vous proposer une tasse de café et de la brioche.
La voix agréablement modulée était celle d'une jeune dame bien élevée qui l'accueillait chez elle. Ce qui rappela à Brachen les bonnes manières.
Merci, très volontiers.
Elle fit un geste vers le couloir et le surprit en lui prenant le bras. Elle lui arrivait à peine à l'épaule. Il percevait son parfum à présent, une essence florale de violette peut-être, qui se dégageait de ses cheveux. Elle lui lança une œillade à travers ses cils tandis qu'il l'escortait dans le corridor. Ce regard le fit revenir de sa première impression.
« Par ça, que les enfants grandissent vite !» N'était-elle pas une compagne de jeu de Dilo?
La dernière fois qu'il avait vu sa sœur cadette, elle était en pénitence pour avoir crotté son tablier. Voilà des années qu'il n'avait pas posé les yeux sur elle. Une peine singulière l'envahit. Il avait perdu davantage qu'un foyer et la fortune quand son père l'avait renié. Elle le conduisit dans le petit salon. Le service à café et la brioche étaient déjà disposés sur une table basse flanquée de deux fauteuils confortables. La fenêtre ouverte offrait une perspective sur le jardin.
« J'espère que vous serez à l'aise ici pour attendre. J'ai préparé le café moi-même. J'espère qu'il n'est pas trop fort. »
« Ce sera parfait, certainement, » dit-il gauchement. Il se sentait doublement honteux. C'était ce qu'il avait retenu, et certes, la famille Vestrit traversait une période difficile si la jeune fille de la maison préparait elle-même le café et coupait le pain pour les visiteurs.
« Vous connaissez ma sœur, n'est-ce pas ? »
demanda-t-il abruptement.
« Dilo. »« Bien sûr. Chère, charmante Dilo. » « C'est ma meilleure amie. »
Elle lui adressa de nouveau ce sourire. Elle lui fit signe de s'asseoir, s'installa dans le fauteuil en face de lui, puis versa le café et lui servit une tranche de brioche au carvi.
« Cela fait des années que je n'ai pas vu Dilo. » se surprit-il à avouer.
« C'est vrai ? Quel dommage ! Elle a bien grandi, vous savez ? » dit-elle. Puis elle ajouta avec un sourire un peu changé et sur un ton entendu,
« Je connais aussi votre frère. »
Brachen fronça les sourcils.
« Serwin, il va bien, j'imagine. »«
Je crois. Du moins, il allait bien la dernière fois que je l'ai vu. »
Elle poussa un petit soupir et détourna les yeux.
« Je ne le vois pas souvent. »
S'était-elle entichée du jeune Serwin ? Brachen calcula rapidement l'âge de ses frères et sœurs d'après le sien. « Allons, Serwin était sans doute en âge de courtiser les jeunes filles. » Pourtant, si Dilo et Malta étaient du même âge, cette dernière paraissait plutôt jeune pour être courtisée. Il commençait à se sentir un peu mal à l'aise. Cette jolie charmeuse était-elle une fillette ou une femme ? Elle remua son café en s'arrangeant pour qu'il remarque la finesse de ses mains. Puis elle se pencha sur la petite table et lui proposa des épices pour son café. Mais ce n'était certainement pas délibérément qu'elle mettait ainsi en valeur sa poitrine. Il détourna le regard, mais le parfum flottait toujours à ses narines. Elle se recula dans le fauteuil, leva sa tasse, but une gorgée et repoussa une mèche de cheveux de son front lisse.
« Vous connaissez ma tante Althea, je crois ?»«
Bien sûr, nous avons navigué ensemble, sur la Vivacia. » Pendant de nombreuses années.
Bien sûr.
Elle est bien rentrée à Terrilville ?
Oh oui.
Il y a des semaines, elle est revenue à bord de l'Ophélie. C'est la vive nef de la famille Ténira, vous savez.
Elle le regarda droit dans les yeux en ajoutant :
Grac Ténira est très épris d'elle. Cela a fait jaser tout Terrilville. Ils sont quelques-uns à s'étonner qu'une femme impétueuse comme ma tante donne son cœur à un jeune homme aussi sérieux.
Ma grand-mère est ravie, bien sûr.
Nous le sommes toutes. Nous avions presque perdu l'espoir qu'elle fasse un bon mariage et qu'elle s'installe. Vous voyez ce que je veux dire, certainement.
Elle laissa échapper un petit rire discret, sous-entendant qu'elle n'aurait pas fait ses confidences à n'importe qui. Elle l'observait avec une grande attention, comme pour s'assurer que les pointes acérées de ses paroles lui entrait bien dans le cœur et le déchirait.
« Un bon mariage, » répéta-t-il tout engourdi.
Il se surprit à hocher la tête comme un pantin. « Ténira, Grac Ténira.
Oh, c'est sûr, un bon parti.
Un bon marin aussi. » Il ajouta ces derniers mots davantage pour lui-même. Il ne voyait pas quelle autre qualité aurait pu attirer Althea.
Soit, il était beau aussi. Brachen l'avait entendu dire. Il n'était pas déshérité, il n'avait pas de penchant à la sindine, lui.
Penser à la drogue réveilla brusquement son envie. La sindine l'aurait détourné de cette sensation nouvelle et déplaisante. Il y avait peut-être un bout de chic dans sa poche de veste, mais il ne pouvait tout de même pas se permettre d'en prendre devant cet enfant si bien élevé.
« Encore de la brioche, Brachen ?»
Il n'entendit que les derniers mots. Il baissa les yeux sur son assiette intacte.
« Non, non, merci beaucoup, mais elle est très bonne. »
Il s'empressa de mordre une bouchée. Dans sa bouche sèche, l'ami avait goût de sciure.
Il avala une gorgée de café, puis se rendit compte qu'il mangeait comme un matelot à la coquerie.
Malta tendit le bras et lui effleura la main de ses petits doigts fins.
« Vous semblez fatigué par votre voyage.
J'étais si bouleversé tout à l'heure quand je vous ai fait entrer. Je ne vous ai même pas remercié d'avoir fait tout ce chemin pour nous apporter des nouvelles du navire de mon père. Vous êtes venu de loin, n'est-ce pas ?»«
Un bout de chemin, » admit-il.
Il se recula et se frotta les mains comme pour calmer le picotement ressenti à son contact.
Elle eut un sourire entendu, puis se détourna. Une rougeur envahit ses joues. Elle était consciente, décidément. Ce n'était pas la caresse insouciante d'une enfant. Il se sentit assiégé, troublé. Il fallait tenir compte de trop de choses. Il saliva en songeant au morceau de sardine qui lui éclaircirait les idées. Il se força à prendre une autre bouchée de brioche.
Vous savez, je vous regarde et je me demande à quoi ressemblerait votre frère avec une moustache. La vôtre vous flatte?
Brashen leva une main pour se lisser la moustache d'un air emprunté.
Ces paroles étaient inconvenantes. Inconvenante aussi la quasi-avidité avec laquelle elle suivait le mouvement de ses doigts.
Brashen se leva.
Peut-être devrais-je repasser plus tard dans l'après-midi. Dites-leur, s'il vous plaît. J'aurais dû prévenir.
Pas du tout.
Elle ne se leva pas pour l'accompagner à la porte et ne montra pas qu'elle remarquait son désir de s'en aller.
J'ai déjà envoyé un coursier. Elles ne vont pas tarder à rentrer. Elles seront impatientes d'avoir des nouvelles de mon père et du navire.
Certainement, convint Brashen avec raideur. Il n'arrivait pas à comprendre cette jeune dame. Elle le regardait ingénument. Peut-être ne s'agissait-il que d'une bévue naïve, enfantine. Peut-être était-il resté trop longtemps en mer.
Il se rassit, le dos rigide, le chapeau sur les genoux.
Alors je vais les attendre. Je vous ai dérangé certainement. Je vous en prie, ne vous croyez pas obligé de rester avec moi. Je peux très bien attendre seul.
Elle rit légèrement de sa maladresse.
Oh là là, je vous ai mis mal à l'aise. Je suis absolument désolée. Je me suis montrée trop familière avec vous, sans doute. C'est seulement parce que vous étiez l'officier affectionné de grand-père. J'ai l'impression que vous faites presque partie de la famille. Et connaissant Serwin et Dilo comme je les connais, j'ai naturellement voulu accueillir chaleureusement leur frère.
Elle baissa la voix de manière dramatique.
C'est terrible que vous ne soyez plus le bienvenu dans votre famille, je trouve. Je n'ai jamais vraiment compris ce qui s'était passé entre votre père et vous.
Elle laissa la phrase en suspens, comme pour appeler à la confidence. Raconter sa vie, c'était bien la dernière chose dont il avait envie. Il ne se souvenait pas de s'être jamais trouvé dans une situation aussi embarrassante. Tantôt Malta semblait une enfant innocente qui faisait son possible pour accueillir convenablement un hôte en l'absence de ses aînés, tantôt c'était une tentatrice qui flirtait avec lui.
Les nouvelles qu'il apportait étaient urgentes, et il désirait voir Althea, mais plus il restait, plus il se sentait mal à l'aise. Il lui vint à l'esprit un peu tard qu'on pouvait juger la situation inconvenante. Il était, selon toute apparence, complètement seul, avec une jeune fille de bonne famille. Il connaissait des pères et des frères qui s'étaient battus en duel pour moins que cela. Et il se leva de nouveau.
« Malheureusement, je dois m'en aller. J'ai d'autres affaires qui m'attendent. Je reviendrai plus tard. » « Transmettez mes respects à votre famille, je vous prie. » Malta ne fit pas mine de se lever, mais il n'attendit pas.
« Très heureux de vous avoir revu. »
Il s'inclina et tourna les talons.
« Votre frère Serwin ne me considère pas comme une enfant, »
déclara-t-elle sur un ton de défi. Il se retourna malgré lui. Toujours assise, elle avait rejeté la tête en arrière, dévoilant ainsi sa gorge blanche. Elle entortillait une mèche de cheveux autour de son doigt et souriait langoureusement.
« Il est charmant. On dirait un petit chat. Vous, vous ressemblez plutôt à un tigre, je trouve. »
Elle mit un doigt dans sa bouche et le mordilla pensivement.
« Mais
Les animaux familiers sont parfois tellement ennuyeux. »
Brashen s'aperçut alors que sous la chemise du pirate battait le cœur d'un fils de famille. Il était profondément choqué. Impossible de se méprendre sur l'intonation. La petite fille du capitaine, sous le toit des Vestrites, essayait sur lui ses artifices de séductrice. C'était scandaleux.
« Vous devriez avoir honte !»
dit-il franchement indigné.
Il ne se retourna pas en l'entendant suffoquer et poursuivit son chemin jusqu'à la porte d'entrée. En l'ouvrant, il se retrouva nez à nez avec Ronica Vestrite et Kefria Havre, stupéfaite.
« Oh, ça, merci, vous voilà !»
s'exclama-t-il avant que Kefria ne demande
« Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?»
Elle jetait des regards éperdus autour d'elle, comme si elle cherchait des serviteurs qui auraient pu le prendre au collet.
« Brashen Trell, »
répondit-il vivement en s'inclinant très bas.
« J'apporte des nouvelles de la Vivacia, des nouvelles urgentes et graves. » « Que se passe-t-il? Est-il arrivé quelque chose à Kyle? Et mon fils Yéma ?»
demanda aussitôt Kefria.
« Non !»
interrompit Ronica Vestrite d'un ton impérieux.
« Pas ici. Entrez. Allons nous asseoir. Viens, Kefria, dans le cabinet de travail. »
Brashen s'écarta pour les laisser passer. Il parlait en les suivant.
« Votre petite fille Malta m'a fait entrer. Je pensais que le coursier qu'elle a envoyé vous avait préparé à ses nouvelles. »
Il eut envie de demander si Althea allait venir, mais il tint sa langue.
« Nous n'avons pas vu de messager, »
répondit Ronica sèchement.
« Mais je craignais bien que, tôt ou tard, on frappe à notre porte avec de mauvaises nouvelles. »
Elle les fit entrer dans le cabinet et referma la porte.
« Asseyez-vous, Trell. Que savez-vous? Vous n'étiez pas sur la Vivacia puisque Kyle vous a remplacé par un de ses hommes. Alors, comment se fait-il que vous nous apportiez des nouvelles ?»
Devait-il lui dire toute la vérité? Si elle avait été Althea, s'ils avaient été tous deux attablés devant des chopes de bière, il lui aurait tout dévoilé et lui aurait permis de le juger.
Le trafic avec les pirates était puni de pendaison. Il était indéniable qu'il s'en était rendu coupable. Il ne mentirait pas, il le tairait simplement.
Vivacia a été capturée par des pirates.
Il jeta les mots comme on jette une ancre sans chaîne. Avant qu'elles aient pu se ressaisir et l'assaillir de questions, il ajouta
« Je n'en sais pas beaucoup plus. Elle a été vue au mouillage dans un port de pirates. J'ignore ce qu'il est advenu du capitaine et de l'équipage. Je suis désolé de vous apprendre cela, et encore plus désolé de vous dire que le pirate qui s'est emparé d'elle est un certain capitaine Kenith. Je ne sais pas pourquoi il s'en est pris à Vivacia. Il a la réputation d'être un champion ambitieux. Il rêve d'unifier les îles des pirates pour en faire un royaume. C'est dans ce but qu'il pourchasse les transports d'esclaves. D'après les rumeurs, il tue tout l'équipage et libère les esclaves pour s'acquérir leur soutien et celui des autres pirates qui honnissent comme lui l'esclavage. »
Il était à court de mots et de souffle. Tandis qu'il parlait, Kefria parut devenir toute molle. Elle s'enfonçait de plus en plus dans son fauteuil, comme si ses paroles lui retiraient la vie. Elle avait levé les mains pour se couvrir la bouche, retenant un gémissement d'horreur. Au contraire, Ronica semblait pétrifiée. Son visage était figé dans un rictus de désespoir. Ses mains de vieille femme agrippaient le dossier d'une chaise, comme les serres d'un oiseau son perchoir. Au bout d'un long moment, elle poussa un soupir et déclara dans un murmure qui parut lui coûter
« Vous nous apportez une demande de rançon. »
Il eut honte. La vieille dame avait l'esprit vif. Elle avait remarqué les accrocs de ses vêtements et deviné comment il gagnait sa vie. Elle croyait qu'il était l'intermédiaire de Kenith. Il brûlait de honte mais ne pouvait lui en vouloir.
« Non, » répondit-il simplement. « Je n'en sais pas beaucoup plus que ce que je viens de vous dire. » Et il s'agit en grande partie de rumeurs et de ragots. »
Il soupira.
« Je pense qu'il n'y aura pas de demande de rançon. Ce capitaine Kenith a l'air enchanté de sa prise. À mon avis, il gardera au moins le navire. Mais je ne sais rien de ce qui était à bord. »
Je suis désolé. »
Le silence retomba, glacé. Les nouvelles qu'il avait annoncées avaient changé le cours de leur vie. En quelques mots, il avait anéanti tous leurs espoirs. Le navire n'était pas seulement retardé. Son capitaine ne rentrerait pas chez lui. Il ne leur rapporterait pas l'argent nécessaire au rétablissement de leur fortune. Au contraire, ce qui leur restait devait être sacrifié pour payer la rançon, si du moins elles avaient la chance de recevoir une demande de rançon. Les nouvelles dont il était le messager avaient ruiné la famille Vestrit. Elles allaient le haïr. Il attendit que l'orage éclate. Elles ne pleurèrent ni l'une ni l'autre. Elles ne crièrent pas, ne l'accusèrent pas de mensonge. Kefria enfouit le visage dans ses mains.
« Yema, » dit-elle très doucement, « mon petit garçon. »
Ronika vieillissait à vue d'œil, les épaules affaissées, les rides creusées. Elle avança à tâtons jusqu'à son fauteuil et s'assit, le regard fixe. Brachen se sentait écrasé par le poids de sa responsabilité. À quoi s'était-il donc attendu? Il chercha à rappeler ses rêveries enfouies, où il avait imaginé Althea, les yeux flamboyants de colère, se tournant vers lui comme vers un ami afin qu'il l'aide à sauver son navire. C'était la réalité. Il avait porté le coup de grâce à une famille qui jadis l'avait accueilli en ami. Soudain, on entendit un cri rauque, un bruit sourd contre la porte qui s'ouvrit à la volée. Althea entra en poussant une Malta échevelée qui se débattait.
« Kefria, cette petite morveuse était encore en train d'écouter aux portes. J'en ai assez de son espionnage et de son indiscrétion. C'est indigne. »«
Brachen ? Que faites-vous ici ? Que s'est-il passé ? Qu'y a-t-il ? »
Althea lâcha Malta si brusquement que celle-ci tomba assise par terre avec un bruit mat. Elle le considéra, les yeux écarquillés, bouche bée, le souffle coupé. Il se leva, fit un pas vers elle et déclara précipitamment « La Vivacia a été capturée par les pirates. Je l'ai vue ancrée dans le port d'une place forte pirate, arborant le pavillon du corbeau. C'est Kenith. Vous le connaissez certainement de réputation. On dit qu'il tue l'équipage des transports d'esclaves qu'il capture. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. » Le cri perçant que poussa Malta étouffa la réponse des autres. Elle reprit haleine, se releva et marcha sur Brachen en agitant les poings comme une folle.
« Non, c'est un mensonge. Père a dit qu'il rentrerait, qu'il allait tout arranger. Il va rentrer, nous rendre riches. Il va chasser Althea et forcer tout le monde à me traiter comme il faut. Espèce de porc, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mon père ne peut pas être mort, impossible !»
Il la saisit par un poignet, puis par l'autre, après qu'elle l'eût frappé deux fois. Mais elle lui donna des coups de pied dans les tibias.
« Malta, arrête immédiatement !»
ordonna Ronika alors que Kefria criait.
« Arrête, arrête, cela ne résoudra rien !»
Althea fut plus discrète. En une enjambée, elle fut sur Malta qu'elle saisit aux cheveux et tira violemment en arrière. La jeune fille poussa un cri de douleur. Brachen lui lâcha les poignets. Alors, Althea fit un geste qui le stupéfia. Elle prit Malta dans ses bras et la serra très fort.
« Arrête, arrête maintenant !»
murmura-t-elle d'une voix étranglée à la jeune fille qui se débattait.
« Cela ne sert à rien. Reprends-toi. Il ne faut pas gaspiller nos forces à nous battre. Nous avons un ennemi commun maintenant. Nous ne devons plus avoir qu'un seul but, les sauver. Malta, Malta, je sais que c'est terrible, mais il faut faire face au lieu de piquer des crises de nerfs. »
Malta se calma instantanément. Elle repoussa Althea avec violence, s'écarta en titubant de sa tante et se tourna vers elle, accusatrice.
« Tu es contente de ce qui arrive ? Oui ? Tu te moques complètement de mon père, tu ne l'as jamais aimé. Tout ce que tu veux, c'est le bateau. Tu espères bien qu'il est mort, je le sais. Tu me détestes. Ne fais pas semblant d'être mon ami. »
Elle serra les dents et lui lança un regard furieux. Un silence absolu se fit dans la pièce. Althea dit d'une voix dure
« Non, je ne suis pas ton amie. »
Elle repoussa ses cheveux décoiffés. « La plupart du temps, je ne t'aime pas du tout. Mais je suis ta tante.
Le destin a fait de nous une famille, et maintenant, il fait aussi de nous des alliés. Malta, laisse tomber tes grands airs, tes chichis et tes bouderies. Concentre-toi sur ce problème, comme nous toutes. Nous devons reprendre notre navire et porter secours aux membres d'équipage qui sont peut-être encore vivants. C'est la seule chose qui doive mobiliser notre énergie pour le moment.
Malta la toisa d'un air soupçonneux.
Tu essaies de m'avoir. Tu veux le bateau pour toi toute seule.
Je veux toujours commander le navire de la famille, convint Althea.
C'est vrai.
Mais cette querelle devra attendre le retour de Vivacia à Terrilville.
Pour le moment, c'est notre volonté commune.
Il est rare que les femmes de cette famille soient d'accord. Alors, tant que c'est le cas, il faut que tu arrêtes de te conduire comme une gamine hystérique et sans cervelle.
Le regard d'Althea engloba sa mère et sa sœur.
Nous ne pouvons, ni les unes ni les autres, nous permettre de laisser libre cours à nos émotions maintenant.
Nous n'avons qu'une seule chose à faire, réunir l'argent de la rançon. Une forte rançon. Franchement, c'est notre meilleure chance de récupérer le navire et l'équipage sans dommage.
Elle secoua la tête.
J'ai du mal à avaler le fait qu'il faille racheter ce qui nous appartient. Mais c'est le moyen le plus réaliste. Si nous avons de la chance, il prendra notre argent et nous rendra notre bien. Mais Brachen a raison. J'ai entendu parler de ce capitaine Kenneth. S'il a pourchassé la Vivacia, c'est qu'il a l'intention de la garder. Auquel cas, il nous reste à prier ça qu'il ait eu la sagesse, pour son équilibre à elle, d'épargner la vie des membres de la famille et de l'équipage. Alors tu vois, Malta, j'ai des raisons d'espérer que ton père et ton frère soient sains et saufs,
déclara-t-elle ironiquement avec une ombre de sourire douloureux. Elle poursuivit en baissant la voix.
Le conseil des marchands se réunit demain soir. Il est censé écouter la famille Ténira exposer ses doléances à propos des taxes du gouverneur, de la présence des prétendus bateaux de patrouille chalcédiens et des esclaves à Terrilville. J'ai promis à Grac d'être là pour soutenir son père. Mère, Kefria, vous devriez venir aussi. Ralliez le plus grand nombre à notre cause. Il est temps que les marchands ouvrent les yeux sur ce qui se passe. L'audace croissante des pirates et l'aggravation de la situation, tout cela participe au gâchis mis par le gouverneur. Quand ce sera le moment d'intervenir, il faudra parler de la situation de la Vivacia et demander aux familles propriétaires d'une vive nef de nous soutenir si nous ne pouvons pas convaincre les autres. C'est un problème qui nous concerne tous.
Au risque de provoquer Malta, j'ajouterais qu'il est directement lié à la question de l'esclavage.
Si Kyle ne s'était pas servi de Vivacia pour transporter des esclaves, rien ne serait arrivé au navire.
Il est bien connu que Kenneth vise les transports d'esclaves.
Il est aussi notoire,
ajouta-t-elle en haussant légèrement le ton alors que Malta allait l'interrompre,
que les activités des pirates ont amené ces forbans de chalcédiens dans notre port. Si Terrilville décide de se défendre contre les pirates, peut-être pourrons-nous démontrer au gouverneur que nous n'avons pas besoin de ces bateaux de patrouille et que nous n'avons pas l'intention de payer pour eux.
Elle se tourna et regarda par la fenêtre. L'après-midi touchait à sa fin.
Et si nous réussissons, peut-être pourrons-nous faire comprendre à Terrilville que nous n'avons pas du tout besoin du gouverneur ni de Jamelia, que nous pouvons très bien nous débrouiller tout seuls.
Elle prononça ces dernières paroles d'une voix très douce, mais qui résonna dans le silence de la pièce. Elle soupira profondément et ses épaules s'affaissèrent.
J'ai faim.
C'est bête, non? Brachen m'apporte les pires nouvelles qui soient et pourtant j'ai faim.
Quoi qu'il arrive, le corps cherche toujours à reprendre le dessus,
déclara Ronica gravement, avec l'expérience d'une survivante. Elle alla d'un pas raide vers sa petite fille et lui tendit la main.
« Malta, Althea a raison. Nous devons nous présenter unis maintenant, mettre de côté tous nos griefs. »
Elle leva les yeux et eut un sourire amer.
« Par ça, ce qu'il faut pour que nous nous souvenions que nous formons une famille. J'ai honte. »
Elle reposa le regard sur sa petite fille, la main toujours tendue. Lentement, Malta avança la sienne. Ronica la prit, plongea les yeux dans les yeux furieux de sa petite fille,
puis elle l'étreignit sèchement. Malta répondit avec circonspection.
« Malta et papa ne sont plus méchants ?»
demanda une voix enfantine. Toutes les têtes se tournèrent vers le garçonnet sur le seuil.
« Oh, Selden !»
s'écria Kefria d'un ton las et consterné. Elle se leva péniblement et s'approcha de son fils. Elle voulut l'embrasser, mais il la repoussa avec raideur.
« Maman, je ne suis pas un bébé »
cria-t-il fâché. Son regard alla de sa mère à Brashen qu'il considéra gravement. Il pencha la tête.
« Vous avez l'air d'un pirate »
décréta-t-il.
« Vraiment ?»
dit Brashen. Il s'accroupit pour se mettre au niveau du gamin. Il lui sourit et lui tendit la main.
« Mais je ne suis pas un pirate. Je suis un honnête marin de Terrilville qui a un peu la poisse. »
L'espace d'un instant, il crut à ses propres paroles. Et il put presque oublier le morceau de sardine qu'il avait tâté au fond de sa poche de veste.